Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
Encore une fois, ce que j'aimerais vraiment communiquer, c'est que si tu n'as pas commencé à vendre, si tu as généré zéro dirham, zéro dollar de ton idée, même si tu as un brevet, ton idée, elle vaut toujours zéro.
Dans cet épisode, j'accueille Mounir Bermani, entrepreneur basé à Dubaï et CEO de Signature Network. Signature Network est une entreprise spécialisée dans les événements virtuels de matchmaking. À travers ces événements, l'entreprise met en relation des startups en besoin de financement avec des investisseurs du monde entier et crée d'autres événements pour mettre en relation des exécutifs en recherche d'emploi avec des recruteurs. Mounir nous explique ce qui l'a poussé à créer sa propre startup à Dubaï et nous livre ses conseils sur comment mettre en valeur son CV, son projet de startup et l'importance de bien développer son network.
Les gens, il y a une manière de les approcher. Moi, j'ai vu des gens, c'est vrai que c'est assez, comment dirais-je, pas alarmant, mais ça m'a choqué. C'est les gens viennent et te tendent une business card avant même de te parler ou de se présenter.
Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Mounir.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup Abdelrahman de m'avoir dans ce podcast, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir aussi de mon côté, comment vas-tu?
Ça va très bien, alhamdoulilah. Comment ça va ton côté?
Au moment où on parle, ça va super, écoute. Au moment où on se parle, là on est le 19 septembre 2020. Juste par curiosité, ça se passe comment là-bas à Dubaï au niveau du Covid, ça en est où?
Écoute, ça s'est stabilisé à un moment donné, j'allais dire ces 2-3 dernières semaines. Et là, on commence à revoir une montée considérable du Covid. Je m'excuse à l'avance de mon français parce que j'ai pas l'habitude de parler français, ça fait longtemps. Tu vas voir qu'à des moments
anglais,
ça bloque.
À des
moments ça bloque, donc je vais enchaîner en anglais. Ça fait pas genre l'expat qui veut se la raconter, mais c'est juste que je bloque.
Voilà. Pas le premier, t'inquiète pas.
En fait, il y a une deuxième vague. Pour répondre à ta question, on observe une deuxième vague qui arrive. Et donc, il y a de plus en plus de restrictions pour les touristes. J'ai vu ça dans la presse il y a 2-3 jours. Et je pense qu'on est à une moyenne de... Il y a une montée de 200 à 300 nouveaux cas par jour. C'est un peu inquiétant, mais bon, c'est vraiment... le Covid, c'est vraiment... J'allais dire, c'est vraiment quelque chose d'imprévisible. Tu vois, il y a beaucoup de restrictions ici. Ce qui fait que ça a porté ses fruits. Et puis là, récemment, on a revu un relâchement dans ce qui est respect des normes. Port du masque, comportement exactement, port du masque. Et du coup, les chiffres, ils explosent, ils commencent à ré-exploser. Donc, je pense qu'on va arriver à une deuxième vague, c'est inévitable. Mais bon, inchallah, on a vu énormément de gens perdre leur boulot, pas quitter la région. Funny enough, c'est aussi une opportunité pour les gens qui sont encore sur Dubaï pour trouver du boulot. Donc ça, c'est juste pour rassurer les gens on entend beaucoup de pensées négatives et de remarques négatives sur les effets du Covid, mais aussi beaucoup de positifs. Les prix de l'immobilier ont chuté. C'est vrai que les salaires sont à la baisse. Mais bon, ça encourage ceux qui ont encore la motivation de rester, d'accepter des salaires, malgré si ces salaires sont moindres. Je pense que ça va repartir d'ici courant début d'année prochaine, Charles.
Je pense, ouais, comme tu dis, ouais, il y a des opportunités, il y a des choses qui marchent moins bien, des choses qui marchent mieux. Et on en parlera justement avec un certain expertise. Je pense que tu pourras nous apprendre, donner quelques-unes petites informations à ce sujet-là. Mais pour commencer, Mounir, j'aimerais te demander de dire un maximum sur toi en 30 secondes.
En 30 secondes?
En 30 non. secondes, un maximum sur toi.
Allez,
on laisse un peu le personnage.
Allez, in a nutshell, comme on dit. Alors, je m'appelle Mounir Bermani, j'ai 36 ans, je suis français d'origine marocaine, de confession musulmane. J'habite à Dubaï depuis presque 4 ans maintenant. Je suis originaire de Nice. J'ai beaucoup voyagé dans ma carrière et maintenant je me suis retrouvé ici à Dubaï où je suis entrepreneur. Donc j'ai mon entreprise à moi qui s'appelle Signature Network et qui est spécialisée dans les événements virtuels de matchmaking, donc de business matching, où je mets en relation les startups qui ont besoin d'investissement et les investisseurs internationaux. Et je fais aussi des événements pour mettre en relation des chercheurs d'emploi, donc des exécutifs C-suite, C-levels, avec des recruteurs de ce même level, de ce même niveau. Donc voilà. Et on fait également des webinaires et des podcasts. Mais notre activité principale, c'est des événements en ligne de matchmaking.
Tu t'es lancé à ton compte il y a combien de temps environ?
Alors, je me suis lancé officiellement mon compte en août 2019. Donc, ça fait
D'accord,
un
pas
peu
si
un
longtemps.
an et un mois. Voilà, un an et un mois.
Ok, super. Avant ça, tu as toujours été employé
Avant ça,
chez
j'ai
Dubaï.
tout. Alors, avant ça, j'ai été employé. Donc, moi, j'ai un parcours très éclectique parce que j'ai fait une prépa HEC à Nice. Ensuite, j'ai fait 3 ans d'école de commerce où j'ai eu la chance de faire un double master en informatique et en marketing. Ensuite, après ça, j'ai démarré ma carrière dans la télévente. Donc, humble beginnings, comme on dit, dans la télévente. Dans la région parisienne. Ensuite, j'ai enchaîné des postes de vendeur de téléconsultant sur Monaco. Après, en pleine crise 2009, il y avait moins de boulot, donc j'ai décidé d'utiliser mon deuxième diplôme d'informatique pour me
T'as switch.
recycler dans, voilà, Switch exactement, Pivot Strategy, pour m'orienter dans le web development et web support. Donc ensuite, j'ai fait un VIE à Oxford. Qui s'est très vite converti en CDI après 3 mois, 4 mois. Et ensuite, voilà, je suis resté 6 ans à Oxford où j'ai assuré un poste de responsable de projet offshore où je manageais une équipe de développeurs basée à Bangalore et je coordonnais des projets d'applications mobiles, voilà, pour une grosse société qui est spécialisée dans le metal packaging, donc le packaging de grande consommation, canettes de Coca, Pepsi, aerosols, Specpac. Et ensuite, après Oxford, donc j'ai enseigné avec Dubaï. Donc j'ai exploré la région avec ma famille en 2014. On a beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la culture, la mixité. Et j'ai toujours eu en tête de venir à Dubaï et de me lancer, de prendre des risques, de chercher un boulot, de me lancer. Et c'est ce qui est arrivé, alhamdoulilah. Donc je suis venu ici en janvier 2017. J'ai fait du networking. J'ai beaucoup utilisé la communauté. Donc j'ai fait pas mal de brunch, justement pour citer la communauté franco-maghrébine qui est ici dans la région, Égir, sur Khaled Boudmar est le fondateur et le créateur que je salue de ce podcast, un grand, grand mentor et un grand, grand ami à moi. Et puis ensuite, voilà, j'ai enchaîné un poste de, j'ai trouvé un poste de, on va dire, intrapreneur où je gérais une start-up qui était spécialisée dans les coffrets cadeaux. Donc, l'équivalent de Smartbox aux Émirats Arabes Unis, ça a duré 2 ans. Et ensuite, j'ai enseigné avec un poste de responsable commercial pour une entreprise, une autre start-up qui est spécialisée dans les gift cards, donc les cartes digitales, programme de fidélité, reward programme dans la région, etc. Et ensuite, comme j'ai beaucoup aimé le networking dans la région, et c'est quelque chose qui est vraiment, comment dirais-je, qui est très. En fait, ici, le networking, c'est vraiment les opérations, les événements de networking qui t'apportent au business. Donc, j'ai compris comment ça marchait. Comme je suis quelqu'un de très, très humain, j'aime beaucoup le relationnel. J'en ai fait plus de 250 en 2 ans à travers le boulot. Et puis, comme j'ai, au fur et à mesure, construit un réseau assez solide de relations, je me suis dit, ben, c'est peut-être le temps de me lancer. Et puis, j'ai eu un déclic en septembre 2019, et je me suis dit que je perdais mon temps dans une entreprise et que j'étais plus fait pour gérer les choses moi-même. Et j'avais une vision, donc c'est comme ça que j'ai progressivement transitionné dans l'entrepreneuriat. Voilà.
Non, parce que tu as une petite expérience en tant qu'entrepreneur. Déjà,
Absolument.
ça fait une bonne transition, je pense.
Ah, ça, absolument. Et après ça, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est vraiment très difficile. Donc,
Ouais.
c'est une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup forgé, qui m'a fait
Donc,
découvrir.
l'entrepreneuriat, pour
Absolument.
définir ceux qui ne connaissent pas, c'est avoir un projet, créer un projet dans une entreprise. Donc, tu peux peut-être définir plus
Exactement.
loin
Donc,
l'expérience.
l'entrepreneuriat, après, bon, je suis pas l'inventeur de cette définition, mais c'est plus comme je l'aperçois, c'est en guillemets un entrepreneur qui gère une boîte qui n'est pas la sienne. Voilà. Voilà, donc
Donc
c'est géré de A à Z.
on donne les moyens, on donne les
Exactement.
moyens, mais on n'a pas la ownership, la possession
On n'a pas
de
l'ownership, on n'a
l'entreprise.
pas de part. Le pouvoir de décision ne t'appartient.
Parfois on peut avoir des parts, mais ça dépend, ouais.
Parfois, on peut avoir des parts, ça dépend de la négociation, effectivement. Effectivement, ce n'était pas mon cas. Mais voilà, au niveau des responsabilités, c'est beaucoup de charges sur les épaules, c'est passionnant. On définit une stratégie de A à Z. Le pouvoir de décision, ben, on le soumet au fondateur, voit si ça marche ou pas, si c'est validé ou pas, et on avance. Mais toute la machine commerciale, la stratégie de partenariat, les finances, la coordination des projets, les relations avec le B2B, avec le B2C, l'initiative de créer de nouvelles idées, de générer de l'argent, des idées génératrices de revenus, c'est principalement l'entrepreneur qui les entreprend. Donc voilà.
Donc
Et
ça,
c'est
ça a
super
l'avantage
expérience.
de réduire les risques parce qu'au final on reste employé, on ne prend pas de risque par
Exactement.
rapport au fond. Et ça a l'inconvénient que voilà, on crée quelque chose mais au final on le possède pas.
Voilà.
Un peu le petit
Entre autres.
problème.
Mais
Mais c'est
très
une bonne transition
rewarding,
pour voilà, comme ça.
très très rewarding.
On apprend beaucoup. Dis-moi, du coup, on va revenir un peu à ton actuel travail, ta structure. Donc si je résume ce que tu nous as dit, c'est que vous faites grosso modo, deux choses. Donc, vous faites du matching, du matching pour les investisseurs et les entrepreneurs. Et vous faites du
Exactement.
matching aussi à un autre produit. Je pense que c'est un autre produit, c'est séparé,
C'est
entre
séparé.
les personnes en charge d'emploi et les recruteurs, donc les entreprises. Voilà.
Exactement.
Comment est-ce que tu en es arrivé à cette idée-là?
Alors, j'aime beaucoup cette question. En fait, ça paraît assez marrant, mais quand j'étais en Angleterre, en fait, à l'époque, quand je cherchais à me marier, j'ai été recommandé par un ami que je salue de ce podcast, Omar, qui m'a recommandé un événement de matchmaking halal, donc de muslim matchmaking. Et en fait, c'est des forums énormes. Ça se passe dans des hôtels 5 étoiles en Angleterre où tu arrives avec une application mobile, tu viens, tu t'assois dans une table et en fait, c'est un tour de table où tu te présentes et puis tu rencontres des potentiels partenaires, hein, des sœurs. Et ensuite, si tu es intéressé, donc tu invites et si la personne est intéressée, donc elle accepte ou elle refuse. Et j'ai fait ça deux fois et j'ai trouvé ça
C'est speed dating.
surréel. Exactement. Voilà, c'est du hell speed dating, mais vraiment avec des intentions de mariage. C'est vraiment très cadré, c'est très sécurisé. Et puis
bien sûr.
j'ai trouvé ça vraiment irréel. Et j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui manque pour le business. Donc, c'est de là d'où m'est venue l'idée de BizMatcher. BizMatcher, c'est le produit phare de Signature. Et c'est aussi une
Parce que
application mobile
du
qui est en cours de
coup,
développement.
oui. Parce que du coup, disons qu'on parle maintenant juste de la partie recrutement des personnes et des recruteurs, la grosse difficulté quand tu recrutes, c'est d'une part de trouver les personnes à recruter, et de deux, la chose qui les dérange, c'est pour eux, c'est que voilà, ça prend beaucoup de temps de trouver les personnes et de faire l'entretien, de faire le screening,
C'est très time consuming, absolument. Donc
voilà,
nous,
très chronophage.
ce qu'on fait, c'est qu'on facilite le travail de recrutement pour les recruteurs, c'est qu'on fait le screening nous-mêmes et ça facilite le boulot du recruteur puisqu'on leur propose des candidats déjà filtrés, qui matchent parfaitement et de qualité. Comme ça, ils n'ont pas à perdre leur
Ouais.
temps.
Et en plus, ils envoient plusieurs dans la même journée ou dans la même. Je sais pas comment ça se
Ils envoient
passe.
plusieurs dans la même journée et ce qui fait que toute la stratégie, j'allais dire, subhanallah, en fait, le Covid a vraiment facilité les choses dans ce sens-là, parce que tout est fait via Zoom, donc tout est enregistré, c'est des vidéos déjà préenregistrées de screening, et quand un recruteur souhaite en savoir un peu plus, ce qu'on fait, c'est qu'on demande l'autorisation du candidat d'envoyer la vidéo au recruteur pour qu'il voit tous les détails qu'il a manqués ou les questions qu'il a manqué de demander. Donc, on envoie les vidéos aux recruteurs et ça les aide vraiment à prendre une décision très rapide. Si oui ou non, ils veulent passer à l'étape suivante avec le candidat. Et ça marche tout autant, c'est tout autant le même modèle pour le format de start-up investisseur. Quand on voit que quand il y a des investisseurs qui sont vraiment intéressés par une idée, par un projet, ils nous demandent est-ce qu'on a plus d'éléments? Parce que vraiment, quand on fait le screening, on essaye vraiment de simuler au maximum les questions d'un expert en investissement ou d'un business angel ou d'une venture capital. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller dans les détails, combien d'argent vous cherchez à lever, quelle est votre expérience, quels sont les qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir en retour à l'investisseur, combien de personnes sont dans votre équipe. Même pour le recrutement, c'est pareil, c'est quels sont exactement les achievements que vous avez réalisés au niveau de, pour chaque expérience, combien d'argent vous avez vous avez fait économiser à votre entreprise, quels ont été les challenges. Vraiment, on essaie de faciliter au maximum le boulot de, j'allais dire, de l'offre, de l'investisseur ou le
Ouais.
recruteur.
Ok. D'accord, super. Je pense que vous êtes dans une situation, mais tu dois le savoir plus que moi, assez unique, dans le sens où vous pouvez voir le marché du recrutement, donc comment, quel est le marché du recrutement des personnes en recherche d'emploi, et de l'autre côté, le marché de l'investissement, de la création d'entreprise. Donc, est-ce que tu vois des corrélations entre les deux?
En fait, ça dépend vraiment. S'il n'y a pas vraiment de corrélation. Je vais donner un exemple concret. Au niveau des recrutements, en ce moment, il y a beaucoup de demandes dans le digital, dans tout ce qui est SEO, marketing digital, remote jobs, qui
Ouais.
nécessitent pas de présence physique dans l'entreprise. Ça, c'est au niveau de la, ça, c'est la partie recrutement. Au niveau des investissements, on voit beaucoup de demandes dans le health tech, dans tout ce qui est technologie de healthcare, dans tout ce qui est applications mobiles ou vraiment devices qui sont qui aident à la recherche ou à la chirurgie. Par exemple, on a des projets qui sont en train d'être finalisés ou c'est des c'est vraiment des devices pour des devices portables pour que tu peux transporter chez toi à la maison pour aider les, en fait c'est vraiment des appareils mobiles pour la dialyse pour les patients qui souffrent de dialyse ou bien des espèces de devices qui t'aident à la régénération du tissu graisseux de la peau pour régénérer la pour éviter l'amputation du pied pour les diabétiques de type 2. Vraiment, on voit dans la partie investissement, il y a pas mal de demandes dans les health tech. Fintech, ça commence à être très saturé parce qu'il y a énormément d'applications de payment gateway. Ça commence à être très saturé, surtout dans la région. On a des gens comme, je veux dire, on a des gens comme Jingle Pay. TransferWise, TapPayment, si c'est
D'accord.
Paytabs, c'est le marché, il y a déjà de l'offre. En fait, c'est juste une histoire d'être très rapide dans le payment release. Quand tu payes un client, là, vraiment, la nécessité, c'est d'avoir le paiement rapide sur le compte en banque. On est en train d'assister à qui est le plus rapide au niveau du paiement, paiement immédiat,
Et moins cher
CRI.
aussi, en termes de
Exactement.
frais.
Absolument, et le moins cher. Le moindre de frais possible, effectivement. Parce qu'en général, ça tourne autour de 3%, 3,5%, ce qui est... Ça reste énorme pour une transaction.
Ça reste beaucoup hein, pour des grosses sommes surtout. D'accord. En fait, quand tu m'as répondu, je me suis dit que ma question était un peu bête dans le sens où,
Pas du tout.
dans l'amitié du marketing, par exemple, ça marche quasiment dans tous les domaines, en fait. Donc, il n'y a pas de corrélation entre le marché et le travail en lui-même.
Après, on voit aussi beaucoup de... On voit aussi beaucoup de demandes d'investissement dans l'éducation, dans le education tech. C'est dans ce secteur, c'est aussi montant. Vu que là, maintenant, l'éducation a vraiment transité transite dans le digital, les écoles, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le fait que si les écoles restent fermées ou jusqu'à quand elles vont ouvrir. Donc, on voit beaucoup de programmes en ligne pour s'instruire. Donc, ça aussi, ça commence à être très émergent. Des
C'était
programmes.
déjà en croissance, mais c'est bien boosté, je pense, par
Ça a bien
le Covid.
boosté, et non seulement cette partie-là, aussi la partie application mobile ou technologie pour faire du fitness à la maison, pour faire du sport, pour perdre du poids. On voit vraiment des gens qui ont des idées très innovantes, très orientées à l'intelligence artificielle, où on peut avoir un programme déjà bien fait, un nutrition plan, pour rester à la maison et continuer à avoir un lifestyle assez healthy.
Ok.
J'ai beaucoup utilisé
Non, il n'y a pas
l'anglais.
de souci. T'inquiète pas, moi aussi je le fais souvent. Il n'y a pas de souci. Par rapport aux personnes qui postulent, vous prenez n'importe quel type de profil, déjà en termes de lieu, ça peut venir dans n'importe quel pays, où il y a passé des zones géographiques spéciales, et en termes de secteur, c'est quel type de profil que.
En fait, nous, les profils, c'est plus du 6, c'est plus du 6-8, c'est plus des exécutifs qu'on
Ouais,
recherche,
c'est ce
des
que j'ai pu
exécutifs.
voir.
Du C-level, du C-suite, donc poste de vice-président, de directeur RH, directeur commercial, CEO, CFO, Tous les signes.
Maintenant,
Ouais.
voilà, tous les signes. Donc maintenant, non, on a aussi du senior, du middle management. On est ouvert au middle management. Par contre, au niveau de la géographie, on n'a pas de limite. Donc ça va de Dubaï jusqu'aux États-Unis. On a des clients d'Australie, de Malaisie, Singapour, justement. On commence à avoir des clients de la Chine et du Japon. Du Kenya. Et c'est ça, c'est encore les bienfaits du marché digital, hein, parce que c'est vrai que quand tu fais un événement physique, les gens sont restreints à plusieurs barrières. Donc le voyage, le voyage, donc si tu n'es pas dans la région, c'est très difficile. Donc il y a des coûts, c'est un temps, c'est beaucoup time consuming et c'est money wasting. Donc là, quand tu fais de faire un événement en ligne, où tout le monde peut se connecter de n'importe quel endroit en respectant une certaine time zone, c'est vraiment une
Ça
bénédiction.
ouvre le champ des possibilités, là.
Vraiment, ça ouvre plus de portes, ça ouvre vraiment toutes les portes. Il n'y a plus de limite.
D'accord. J'ai vu aussi, en termes de grille salariale, tous les postes, c'est les postes à 10K, 10 000 dollars et plus.
10 000 dollars et
C'est un choix que
plus.
vous êtes.
10 000
Pourquoi vous avez fait ce
dollars.
choix?
10 000 dollars et plus, ça peut être un peu moins. Le choix, alors déjà premièrement, parce que notre business model est différent. D'habitude, quand tu vois, nous, on n'est pas une agence de recrutement, nous, on fait du matchmaking. Et l'offre, elle est plus en position de te dire non, je ne veux pas assister à ton événement. Nous, on travaille avec le candidat. On travaille avec le candidat, donc. On lui fait son CV, c'est vraiment un end-to-end service. Si on voit qu'il y a du travail à faire dans le CV, on refait le CV. Si on voit qu'il y a du travail à faire au niveau du pitching, parce que ça, c'est la partie la plus importante, c'est de se vendre devant un client, que ce soit un recruteur ou un investisseur, c'est que ton discours doit être cohérent et confident, avec beaucoup de confiance et d'aplomb dans ta manière de vendre, de parler de toi. Et on voit que pas mal de gens ont du mal parce qu'ils n'ont pas cette expérience commerciale, ils n'ont pas ce background commercial ou de sales. Donc pour certains, c'est assez difficile. Donc quand nous, on évalue la personne, on voit s'il y a du travail à faire au niveau du CV, on voit s'il y a du travail à faire au niveau du comportement, au niveau du wording. Parce que chaque détail est super important, surtout en ce moment. OK? Donc quand on voit qu'il y a un travail de fond à faire, on fait une espèce de master plan pour le candidat. Donc ça passe par des séances de coaching, de private coaching, ensuite de CV remastering, CV polishing. Et dès que le candidat est prêt, là on voit dans notre réseau si on a des choses qui matchent pour lui. Et puis on le fait. Là maintenant pour répondre à ta question, comme généralement c'est le candidat qu'on facture, c'est le candidat qui paye. Principalement ces tranches salariales, ce sont les gens qui peuvent se permettre de payer nos services. Donc voilà.
D'accord. Ok.
Il y a une partie qui est fixe,
Oui.
qui concerne le manpower. Il y a des gens qui peuvent requérir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de travail, 2 mois, 3 mois de travail. Et il y a des gens, ça peut être beaucoup moins. Donc il y a une partie fixe, et bien sûr le temps se paye. Et puis il y a une partie variable quand le candidat est placé en entreprise. Voilà.
D'accord. Et du côté des entreprises? Pour eux, c'est gratuit ou ils doivent payer aussi.
Pour eux, en ce moment, pour l'instant, c'est gratuit. Pour eux, c'est
OK.
gratuit. Ils veulent déjà ils veulent déjà tester la plateforme, voir si c'est vraiment efficace,
OK.
les candidats sont de qualité. Et c'est plus, encore une fois, c'est plus eux qui sont les recruteurs ou les investisseurs qui sont en position de dire non, je ne viens pas. Donc nous, ça n'a pas de sens de faire venir ou de travailler avec des candidats si on n'a pas l'offre de l'autre côté.
OK. Les recruteurs lambda, enfin basiques, leur business model à eux, c'est le contraire en fait. C'est de trouver
Absolument.
les personnes qui recrutent gratuitement, enfin, c'est eux qui font les recherches, et ils font payer les entreprises un pourcentage du salaire de
Exactement,
l'année,
du
par
salaire
exemple.
annuel. Voilà.
C'est leur annuel.
Nous, pour répondre à ta question, on travaille avec le candidat. C'est pour ça que par morale, je ne me vois pas, on ne se voit pas travailler avec des gens qui ont des salaires très modestes, qui sont vraiment dans le minimum vital, parce que je ne me vois pas facturer ce type de gens-là, et ce serait pas vraiment déontologique. Et puis là, justement, nous, c'est vraiment le business qui est venu à nous, c'est des gens
vraiment de ce rang-là qui sont venus nous voir, nous contacter. Voilà, on a vraiment besoin d'un job. On a des familles, c'est forcément, predominantly des expats qui disent, voilà, on vient de perdre notre job, c'est très urgent, on a 2 semaines pour trouver, ou 3 semaines pour trouver, ou 1 mois pour trouver, sinon on doit quitter la région, on doit annuler les visas, etc. Et c'est vraiment une demande, ensuite une deuxième demande, une troisième demande qui est venue comme ça. Là, on a eu un succès assez rapide parce qu'on a réussi à placer des gens en 2 semaines, 3 semaines. Et puis voilà, puis on s'est dit on va rester sur ce business model et on verra quand les choses évolueront par la suite.
Oui, d'accord. Si après il y a une grosse demande du côté des entreprises, parce qu'à partir de ce moment-là, vous pourrez
exactement.
Faire
là, on devra pivoter et évoluer, faire évoluer le produit.
Super.
Et pour répondre à ta question, c'est pareil au niveau de l'investissement, c'est le même format. Au niveau de l'investissement, c'est le même format, sauf que on est dans un rang différent. On travaille avec les startups sur un contrat de 12 mois où on assure un follow-up régulier, où on leur offre 5 minutes pour venir pitcher leur business model durant un événement en ligne. Là, on assure le suivi avec les investisseurs pour voir s'il y a de l'intérêt. On fait circuler le vidéo pitch à l'ensemble des investisseurs parce qu'on en a de plus en plus qui viennent. De là, on a un réseau d'une soixantaine d'investisseurs qui représentent une fortune d'environ 12 milliards de dollars. Et à chaque fois,
c'est worldwide ou c'est principalement.
C'est worldwide, c'est worldwide. On a des investisseurs américains, singapouriens, jordaniens, égyptiens même, chinois, japonais, français, anglais, canadiens, australiens. Il y a des pays que j'ai oublié de citer. Il y en a même des investisseurs du Maroc, d'Algérie, qui sont venus se greffer à la plateforme. Parce qu'ils ont trouvé la plateforme intéressante. Ils ont participé aux événements qu'on a fait en juin. En juillet et en août, ils ont beaucoup aimé le format. La plupart viennent en tant que viewers, donc ils payent 10 dollars pour venir voir le show. Ils voient comment ça se passe et puis quand ils sont intéressés, ben, ils nous recontactent pour dire voilà, je veux participer.
Parce que du coup, vous avez plusieurs offres pour assister aux webinars et aux événements.
C'est ça.
Tu viens de citer les viewers, donc ceux qui regardent juste les gens parler ou les recruteurs avec les. Ça se passe comment?
Alors, ils regardent et ils peuvent interagir au niveau des commentaires. Donc, on a des modérateurs qui contrôlent le flux de communication pour s'assurer que voilà, il y a du contenu, il y a une certaine, en fait, il y a un code de conduite quand on vient au format Signature Network. C'est que on n'autorise pas tout ce qui est commentaires liés à la religion, à la politique, qui ont des connotations pas très morales, j'allais dire, sexuelles. Ou des gens qui se présentent pour vendre leurs produits, c'est vraiment très contrôlé. Mais ils peuvent quand même agir pour poser des questions pertinentes à l'audience. Par exemple, les webinaires, on s'est lancé un challenge où on s'est dit on va faire le plus grand marathon de webinaires au monde. On l'a appelé Ramadan Webinar Series. Ça s'est passé cette année. C'était pendant le mois de Ramadan où on a fait 33 webinaires avec un sujet différent par jour. Et des intervenants différents tous les jours, donc des orientés business. Et là, les gens payent, je pense que c'était il n'y a pas très longtemps, et j'ai déjà oublié le prix, je pense que c'était de l'ordre de 10 dollars ou 15 dollars pour venir assister au webinaire. Et chaque intervenant pouvait poser les questions qu'il voulait. Voilà. Donc, pouvait intervenir, pouvait même faire des commentaires sur le sujet. Donc, c'était des sujets orientés business, comment ouvrir une boîte dans la région, ou comment se lancer dans l'entrepreneuriat, comment ouvrir un site e-commerce, comment gérer son alimentation durant le mois de Ramadan, par exemple, comment gérer le succès entrepreneurial. Il y avait vraiment des thématiques très, 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 très variées.
Et l'intérêt de ces webinaires que vous avez fait, c'était en mai, c'était de faire populariser votre plateforme. Parce que du coup, ce n'était pas le matching à ce moment-là. Vous n'avez ni le matching de recrutement, ni de d'entrepreneurs.
Alors, durant le Covid, j'ai commencé avec des podcasts en interviewant des gens du milieu business pour donner des conseils, pour donner vraiment de la motivation aux gens qui étaient en lock, qui se sont retrouvés en confinement, qui ne savaient plus quoi faire. Et le monde était en complète transition. Les gens étaient complètement perdus. Certains perdaient leur emploi, étaient très déprimés. Donc, j'ai fait ça pour vraiment donner de la motivation aux gens, pour donner du contenu aux gens pendant qu'ils étaient à la maison. Et de là, je me suis dit, voilà, le mois de Ramadan arrive, on est en lockdown. Qu'est-ce que je peux faire pour aider la communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour non seulement aider la communauté, mais aussi Pas vraiment communautaire, mais c'est vraiment le monde. Et comment leur donner du contenu? Et c'est vrai que pour la communauté aussi musulmane qui est en plein fasting, comment les animer, leur redonner du boost et les enrichir au niveau des connaissances. Et donc j'ai
Ouais.
combiné tout ça et j'ai dit, ouais, on va essayer de choisir un timing assez convenable pour tout le monde, où les gens ont encore de l'énergie, j'allais dire, pour tenir devant un webinaire, ce qui n'est pas facile. Donc on a essayé de le faire entre 3 heures heure de Dubaï et 5 heures heure de Dubaï. Donc entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib, là où les gens ne sont pas encore. Voilà. Ils ont encore du temps entre 5 heures et 6 heures de préparer leur plat, s'ils vivent tout seuls ou
Ouais.
s'ils vivent en famille. Et il y a encore assez d'énergie pour tenir. Donc voilà, c'était des webinaires de 2 heures par jour, mais ça demande énormément, énormément de préparation. Je pense que c'était le plus gros challenge que j'ai eu de toute ma vie. Parce que j'ai décidé de le faire une semaine avant le Ramadan. Et donc c'est une organisation vraiment monstrueuse au niveau de à la fois contacter les. Créer la plateforme, créer la landing page, contacter les potentiels speakers, élaborer les questions, définir les sujets, répondre, être très flexible au niveau, parce qu'on a eu pas mal de désistements au niveau des speakers, donc il fallait les remplacer très vite. Des fois, c'était le jour d'avant, des fois, c'était même le jour même. Donc mais c'était,
C'est
alhamdoulilah,
compliqué à gérer.
c'était très rewarding, yes. Ouais, on l'a fait, voilà. Il suffit juste de se donner un objectif et de mettre toute l'énergie. On y
D'accord.
arrive.
Et au niveau du produit pour les entrepreneurs et pour les recrutements, vous aviez commencé avant ça ou vous avez commencé après le Ramadan?
Alors, on devait lancer un événement offline avec WeWork Dubaï en février. Et ça ne s'est pas fait parce que, voilà, ils ont force majeure, l'événement a été annulé. C'était déjà en pleine
Ouais.
préparation. Et puis voilà, Covid est arrivé, donc on a décidé de transiter, on l'a fait en digital, on n'avait pas le choix. Et surprisingly, on a eu un succès qui était vraiment au niveau des attendees, qui était vraiment de l'inespéré. Parce que, comme on disait tout à l'heure, quand on fait un événement physique, l'audience est très limitée parce que voilà, si tu fais un événement sur Dubaï, c'est que des gens de Dubaï ou maximum d'Abu Dhabi qui vont se déplacer pour venir à l'événement, s'ils peuvent vraiment se déplacer. Mais là, comme tout le monde est à la maison et tout le monde peut se connecter de partout dans le monde et que tu définis une heure spécifique, le premier événement qu'on a fait le 4 juillet, on s'est retrouvé avec 3375 participants. Et quand même assez overwhelming pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça. Et on a réussi à réunir 20 startups, 60 investisseurs et le reste que des viewers et des experts. On a eu des membres de la famille royale, on a eu des ambassadeurs, on a eu des business, des vraiment des businessmen très influents, que ce soit dans la région ou au niveau international. Et puis on a fait un deuxième volet, on a réitéré avec un deuxième volet qui était tout aussi successful, alhamdoulillah, le 10 août. Et là, ça sera aussi un troisième volet, mais ça sera une conférence sur 4 jours en ligne où les startups viendront pitcher. Que ce soit des startups ou des scale-up, ça peut être aussi des entreprises qui sont déjà lancées depuis quelques années, qui cherchent de la cash injection, qui cherchent un investissement supplémentaire pour grandir.
Pour grossir, ouais.
Voilà.
D'accord. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui il y a beaucoup de recrutements qui, même en France ou dans n'importe quel pays, se font
Bien sûr.
en ligne, sur Zoom ou d'autres plateformes. Quels sont les conseils que tu peux donner à ces personnes qui cherchent un emploi en ligne? Qu'est-ce qu'ils doivent préparer? C'est quoi les choses que tu vois qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas?
Alors, déjà, la chose la plus importante que je peux citer, c'est les achievements. Quand une personne regarde ton CV, la chose qui l'intéresse, surtout en ces temps-là, comment tu te distingues de d'autres candidats, c'est ta valeur ajoutée, c'est tes achievements. Voilà, on voit beaucoup de gens quand ils font un CV. Moi, personnellement, ça m'a pris une quinzaine d'années avant d'avoir un CV qui tient vraiment la route. Il y a chaque fois des versions 1, version 2, version 3, jusqu'à atteindre version 150. Parce que, déjà, premièrement, tout est perfectible. Et puis, quand tu demandes l'avis de 10 personnes, tu auras toujours 10 avis différents. Voilà. Et donc, pour ce vraiment, la chose que le conseil que je peux donner, c'est de mettre les achievements. Beaucoup de gens se limitent aux tâches qu'ils ont et réalisé dans chaque entreprise. Voilà, j'ai géré 15 personnes, j'ai j'ai créé, préparé des dossiers, j'ai imprimé, j'ai envoyé. Ça, ça fait partie de ton job. Maintenant, ce qui intéresse une entreprise, c'est combien tu as. Si tu es un sales, combien d'argent tu as rapporté, combien de contrats tu as signé, combien d'argent tu as. Si par exemple tu travailles dans le procurement, combien d'argent tu as fait économiser à ton entreprise. Par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai fait économiser 50% des dépenses du département en 6 mois à mon entreprise. Ou en tant que vendeur, j'ai vendu, j'ai réalisé 6 millions de dirhams de vente durant les 2 premières années. Il faut vraiment que le CV, faut qu'il y ait des chiffres.
J'ai fait grossir l'équipe de 5 à 15 personnes.
Exactement. Il faut que les chiffres parlent. Il faut que les chiffres vraiment parlent. Et les choses à éviter, c'est principalement un CV qu'il faut que ça tienne maximum sur 2 pages. Il ne faut pas se retrouver avec un CV de 3 à 4 pages, quelle que soit ton expérience. Après, le reste, tu peux le dire à l'oral quand tu as un entretien. Tu peux le dire quand tu as un Zoom meeting. Excuse-moi, je suis vraiment parti à l'essentiel. Il y a d'autres choses, mais bon, on est limité.
Ça, c'est pour la… Ouais.
Voilà, ça me fait vraiment penser. Je me rappelle quand j'étais en prépa HEC, j'avais un cours qui était vraiment… qui me sert beaucoup aujourd'hui, c'est la rédaction de texte. C'est prendre un texte de 2000 mots et l'objectif, c'est de le réduire en 100 mots. Et c'est à peu près ça. C'est à peu près ça.
Du coup, vous avez la partie lettre de motivation ou pas trop, c'est juste le CV?
La partie lettre de motivation, ici dans la région, c'est pas vraiment demandé. Par exemple, à Dubaï, on ne demande pas vraiment de lettre de motivation. C'est vraiment quand on travaille pour des multinationales, par exemple des multinationales françaises, où là, la mentalité du recruteur va te dire tu donnes une CV et une lettre de motivation. Donc, nous, on n'est pas vraiment. Moi, je ne suis pas vraiment orienté de lettre de motivation. J'ai oublié ça depuis 3 ans, pour être honnête avec toi. On se focalise vraiment sur le CV. Et puis, un autre conseil que je donne, c'est que aujourd'hui, le CV papier ou le CV PDF commence à vraiment saturer. On voit vraiment le CV vidéo faire une sacrée différence. Donc, une vidéo de soi, c'est un des services qu'on propose et qui a énormément d'impact. C'est un CV vidéo où c'est un CV vidéo de 3 minutes ou moins. Le plus, the shorter is better. Donc, si tu parles de ton expérience, tu fais un peu ce qu'on appelle une rétrospective de tes expériences passées en 3 minutes. Ça se travaille énormément. C'est pas quelque chose que tu fais en one shot, mais ça a énormément d'impact. Et quand tu vas sur LinkedIn, sur une plateforme comme LinkedIn, tu peux voir qu'il y a pas mal de candidats qui postent leurs CV vidéo et les retours sont assez impressionnants au niveau des commentaires ou de
c'est vrai.
Envoyez-moi un message en privé, je suis intéressé.
Est-ce qu'on peut tu recommandes toi de postuler à une entreprise en envoyant une vidéo dans l'email?
Je le recommande très fortement.
Je le recommande très fortement.
Ça fait une grosse différence. Juste un message. Moi, j'ai reçu des messages en ligne d'influenceurs qui c'était même pas des messages audio, c'était vraiment des messages vidéo. Et je peux dire que ça fait une sacrée différence parce que tu sais, des fois, tu ignores les messages sur LinkedIn. Ou « Salut, comment ça va ? Nous sommes une entreprise qui fait de la SEO ou qui font des créations de websites. » Généralement, tu n'as pas le temps de répondre à tous les retours. Mais quand tu vois une vidéo arriver, je peux te dire que le premier réflexe que tu as, c'est de l'ouvrir.
Je sais que je reçois parfois quelques offres d'emploi de recruteurs sur LinkedIn aussi. Et la seule fois où j'ai répondu, c'est quand un recruteur, je crois que c'est une boîte de recrutement UK, m'a envoyé une vidéo. Et dans l'image de la vidéo, je voyais juste mon nom sur une pancarte. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, le mec, il voulait me recruter. Enfin, c'était une agence de recrutement plutôt qui voulait me discuter avec moi pour me proposer des différents emplois. Et il avait fait une vidéo pour ça, spécialement que pour moi, en fait. Et c'est la seule fois où j'ai répondu à un recruteur.
C'est parce que c'était personnalisé, c'était vraiment dédié pour toi.
Personnalisé, exactement. Voilà. Ouais, j'étais un peu surpris, j'ai fait waouh.
Et c'est bien fait. Si la personne veut vraiment aller de extra mile, faire vraiment le petit plus qui fait la différence, c'est de sous-titrer sa vidéo pour que la personne n'ait pas vraiment à appuyer sur play pour écouter le son. Une vidéo sous-titrée avec maintenant il y a des applications qui sont gratuites, j'en ai oublié le nom, mais qui font du sous-titrage automatique avec l'intelligence artificielle et qui sont très précises d'ailleurs. que les gens peuvent utiliser pour faire une vidéo où le texte défile sans devoir lire la vidéo. Voilà.
Et dans la vidéo, tu conseilles à tes clients, tu conseilles de s'exprimer comment, d'être en mode de standard, costume, cravate, enfin, c'est quoi que tu leur demandes de faire, d'être naturel, dehors, assis sur un bureau, je sais pas moi.
Après, oui, tout dépend du poste pour lequel tu postules, mais bah, après, bon, il y a des limites, hein. Il y a des limites. Tu vois, le short, les tongs, pour certains recruteurs, ça peut passer si c'est des startups qui sont, par exemple, en Californie avec des casquettes de basket, de NBA ou des costards
D'accord.
cravates. Franchement, tout dépend, mais voilà. J'ai pas vraiment de réponse précise à cette question parce que. Si tu postules pour un poste dans la finance, pour une grosse banque suisse, forcément le costard va mieux passer. Ça va
Oui.
être plus être un format corporate où là, ça va. Faut
S'adapter au
s'adapter
format de ce qu'on recherche.
au format, exactement. S'adapter au format.
Ok. Et faire une vidéo de quoi? De moins de 3 minutes, moins de 2 minutes, moins de 5 minutes, c'est quoi?
Moins de 3 minutes, la limite. Moi, je ne considérais pas plus long de 3 minutes. Pas plus long de 3 minutes.
D'accord. D'accord, ok. Et comme pour le CV, parler des achievements, c'est un peu
Exactement.
différent pour
Aller
la
droit au
vidéo?
but. Non, franchement, tu peux parler des achievements dans un CV vidéo. Je pense que ça a autant d'impact que dans un CV PDF. Après, ce qu'il faut
D'accord.
savoir, c'est que nous, comme on fait le screening, c'est différent. Si tu dois envoyer un CV à un recruteur qui fait le recrutement lui-même, ils utilisent ce qu'on appelle des ATS. Ce sont des logiciels qui vont aller chercher des keywords. Voilà,
Application Tracking
application
System.
to tracking system, exactement. Tu vas aller chercher vraiment les mots-clés qui les intéressent. Et moins il y a de mots-clés qui les intéressent, malheureusement, c'est comme c'est le système qui fait la. C'est l'algorithme
Le
système
filtrage.
qui définit ou pas si la personne est pertinente pour le job. Nous, c'est complètement différent. Tu peux déjà parler des achievements. Et c'est un format vidéo et on le recommande vraiment aux entreprises parce qu'elles nous font confiance. Oui.
D'accord. On a parlé pas mal du volet recrutement.
Oui.
Par rapport au volet fundraising, les entrepreneurs qui recherchent des fonds, on a parlé un peu aussi des tendances. Tu m'as dit que la health tech était très demandée. Enfin, tout
Yes.
ce qui est, c'est pas, comment dire, c'est, la santé, tout ce qui est santé,
Il
les produits de
y a
tech et santé.
je pense pas qu'il y ait un équivalent en français, donc
Ouais.
voilà.
Santé tech.
Santé tech. Santé tech.
Tu m'as parlé aussi de la partie éducation. Est-ce que tu vois que tout ce qui est investissement est en déclin ou en augmentation par rapport à la crise, tout ça, c'est quoi comme tendance que tu vois par rapport à ça?
Il y a pas mal de secteurs, j'allais dire le secteur des événements, qui est en déclin, justement parce qu'il y a de moins en moins de rencontres physiques,
Et ouais, les événements physiques, pour le coup.
d'événements
Ouais.
physiques du moins en ce moment. Il y a beaucoup de demandes, il y a moins d'intérêt pour le. Il y en a toujours, hein, parce que les gens y croient, mais il y a moins d'intérêt dans tout ce qui est événement physique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part les événements, je vois pas
Sur
d'autres.
le tourisme, je pense.
Ouais, bah,
Tourisme,
forcément, forcément, tout ce qui est hospitality, tourisme, ouais, travels, ça prend un sacré coup, même si on a eu une start-up qui fait justement des e-vouchers pour le voyage, et ils ont eu beaucoup d'attention durant le premier et le deuxième volet. Et ils sont justement en cours de due diligence avec les investisseurs. Donc, there is always a chance. Parce
ouais.
que vraiment, ce qui intéresse les investisseurs, c'est ce que le business a commencé à générer de l'argent. Donc, même si tu es en early stage et startup, les investisseurs, franchement, leur intérêt principal, c'est quand est-ce que je vais avoir mon argent en retour. Avec mon retour sur investissement avec ma plus-value. Et quand plus tu as généré de revenus, moins tu as dépensé de coûts, plus tu es motivé, plus l'investisseur va voir la passion dans tes yeux, dans ta manière de pitcher, l'équipe, et plus ça va susciter de l'attention. Après, si j'ai un conseil à donner pour les gens qui viennent pitcher, c'est d'être vraiment d'aplomb sur le montant qu'ils demandent. combien d'argent ils demandent pour combien d'argent ils demandent pour leur investissement, et le plus important, comment ils vont le dépenser. Et si j'ai un conseil supplémentaire à donner, donc ça c'est un extra cookie pour toi, en direct de Singapour, c'est
C'est
d'éviter à
plaisir.
maximal les dépenses liées aux opérations, donc les salaires, les expenses. Un investisseur, ce qu'il veut voir, c'est un investissement qui va lui ramener automatiquement de l'argent. Donc, investir dans la technologie, le développement de l'application ou d'une technologie, la propriété intellectuelle, est-ce que la personne a l'idée, a le concept, c'est bien, mais est-ce qu'elle l'a protégée ou pas? Combien d'argent elle va devoir, combien d'argent elle va devoir avoir besoin pour protéger son intellectual property, et le marketing. Voilà, tout ce qui va aider à la vente, donc à la génération de revenus. Voilà. Éviter un maximum de coûts personnels. Donc, ils ne sont pas stupides. Certes que si quelqu'un est ce qu'on appelle un bootstrapper, donc il travaille à côté, il a son idée de l'autre côté, et il essaye un maximum de la faire grandir, ils vont savoir qu'à un moment donné, s'ils investissent, la personne devra être full-time dans cette activité-là. Donc, au fur et à mesure, la porte est ouverte pour inclure un salaire dans l'investissement. Mais plus, généralement, plus les startups sont modestes, plus ils bénéficient de l'aide. Plus ils essaient de gonfler ou d'enjoliver leur idée, j'ai la meilleure idée au monde, elle vaut 2 millions, elle vaut 3 millions de dollars, plus ils vont être challengés par soit nos experts, nos advisors, soit nos investisseurs.
Ouais.
Je sais pas si
D'accord, donc faut rester
tu vois où je veux en venir exactement.
ouais, faut rester lean, quoi,
Il faut
comme on dit.
rester exactement, il faut rester ligne. Rester ligne, et puis ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à évaluer leur business, qui ont du mal à évaluer la valeur de leur business. Mais encore une fois, ce que j'aimerais vraiment communiquer, c'est que si tu n'as pas commencé à vendre, si tu as généré zéro dirham, 0 dollar de ton idée, même si tu as si tu as un brevet, ton idée, elle vaut toujours zéro.
Ouais.
Tu vois? À part si tu as
Même
une
si, même
technologie qui existe, à part
si,
si tu as un code source qui
voilà, à
existe.
part, voilà, ça dépend
Voilà.
après du
Ça
coup.
dépend après
Mais si
vraiment.
c'est un truc qui est assez facile à faire et que t'as pas réussi à générer d'argent,
C'est ça.
ouais,
C'est ça.
c'est pas bon signe. Est-ce que tu as pu voir des demandes dans tout ce qui est business halal ou dans le secteur un peu du halal?
Alors, oui. Alors justement, il y a une startup qui s'appelle Yalagiv, qui est la première plateforme dans la région Middle East à faire du fundraising, donc tout ce qui est donation pour les charités. Donc on voit que c'est un marché très régulé, très strict, où il faut passer par un organisme spécifique qui s'appelle Islamic Affairs, surtout ici à Dubaï. Donc c'est une plateforme qui a eu l'autorisation justement de Islamic Affairs et qui cartonne, qui s'appelle Yalagiv, où tu peux créer ta propre campagne de donation, de charity. Et tu payes en ligne et tu peux même payer avec du bitcoins. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une startup qui cartonne vraiment et qui existe depuis pas très longtemps, depuis 16 mois. Et
C'est un peu
voilà.
comme comment ça s'appelle, Lounge Good, ce genre de choses.
Un peu comme.
Comment ça, Lounge Good, je ne sais pas si tu connais.
Non.
C'est une plateforme où pour les musulmans,
C'est une
je
plateforme
sais
de
pas,
donation.
américaine,
OK.
où tu peux mettre ton projet, un peu comme Kickstarter, ton
C'est
projet,
ça. C'est ça.
voilà, et tu peux avoir ton. Mais c'est pour voilà, pour les mosquées, pour aider
D'accord.
quelqu'un, pour les projets
C'est exactement
musulmans.
ça. Donc, tu peux avoir autant une campagne pour, par exemple, franchir le mont de l'Everest et demander un financement, comme ça peut être le financement comment ça peut être le Covid, Zakat, aider un village en Afrique, aider un village dans le Maghreb,
L'opération de
l'opération.
quelqu'un, ce genre
Voilà.
de
Ça fait
choses.
un peu penser à Baraka City en France. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
D'accord. Oui. Jusqu'à récemment, j'ai l'impression que ça change un peu. Quand on voulait un financement, quand on était une start-up en général, on prenait les investissements du pays. Je pense à 80% au moins, les investissements venaient du pays où la start-up est créée. Par exemple, si on est en France, je ne pense pas que les gens aient des investissements des États-Unis directement ou bien d'autres pays, ou peut-être de l'Europe au mieux, mais ce sera surtout
D'accord.
en France. Et là, toi, tu fais des programmes qui sont entre plusieurs pays. Est-ce que ça, c'est quelque chose où tu vois une traîne, enfin, c'est un changement qui a lieu? Ou
Alors,
bien les gens continuent d'investir que dans leur zone?
Ben en fait, nous, justement, c'est les projets qui sont déjà qui sont en cours de finalisation, ce sont pour des projets qui ne sont pas dans le pays. Par exemple, on a une startup qui est basée en Californie, dans la health tech, qui a des investisseurs indiens basés à Dubaï. Tu vois? Pareil, on a une startup russe qui essaie de lever 1,5 million de dollars et les investisseurs et les investisseurs, justement, sont en Suède. Donc, il n'y a pas ce pays, il n'y a pas ce genre, cette espèce d'investissement chauviniste, tu vois ce que je veux dire, patriote. Vraiment, les investisseurs ne
C'est
sont
pas
pas
une
dans le
question
pays.
de patriotisme, c'est une question de, voilà, de contrôle, de, voilà, savoir ce qui se passe. Si c'est quelqu'un qui est aux États-Unis et qui est en France, par exemple, ou l'inverse, en général, c'est plutôt l'inverse. Des gens qui sont aux États-Unis, en Silicon Valley, qui vont investir en France,
Je vois ce que tu veux
ils
dire.
vont se dire, c'est pas les États-Unis, on connaît pas, on ne pourra pas prendre de risques, on ne sait pas comment ça se passe, on ne pourra pas les surveiller, on ne pourra pas, voilà.
Je vois ce que tu veux dire. Mais généralement, quand ils envoient une équipe d'experts sur place pour faire le due diligence et voir comment ça se passe au niveau des finances, si les finances tiennent la route, ils font vraiment un background. Des fois, des due diligence peuvent durer jusqu'à 6 mois. Ça peut être très long. Mais voilà, c'est pour répondre à la question.
Et surtout pour signer le papier final, enfin
Term
le
sheets. Ouais.
term sheet, en général, ça se faisait plutôt beaucoup sur
Ça se fait
place, tu
sur
vois,
place.
en
Ça se
contrat
fait sur
physique.
place.
Ça
Là,
se fait toujours sur place maintenant,
c'est inévitable. Ça se fait sur place. Donc, il y a vraiment un voyage à faire.
d'accord.
Exactement.
Oui, super. On a parlé un peu de tout ce dont je voulais parler par rapport à. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que tu faisais et les conseils que tu pouvais donner dans le sujet-là.
J'espère que j'ai répondu à tes questions, moi.
C'était super intéressant. Je voulais juste terminer sur deux petits points. Le premier point, c'est par rapport à la vie à Dubaï. Parce que la Dubaï, c'est une ville qui est très populaire en France. Je pense que tu dois même souvent avoir des gens qui te contactent pour demander des conseils ou ce genre de choses. Est-ce que c'est toujours aussi intéressant de venir à Dubaï qu'il y a plusieurs années où c'était vraiment l'essor? Quel conseil tu as donné aux gens qui veulent venir s'installer à Dubaï?
Ah, je ne sais même pas par où commencer. Déjà, pour venir à Dubaï, il faut aimer la région, numéro un. Je pense qu'on va avoir un deuxième élan de Dubaï aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit beaucoup, on voit pas mal, on a vu pas mal d'expats partir, mais d'autre côté, on voit aussi pas mal de gens qui veulent venir et tenter leur chance. Ce n'est pas pour tout le monde. Je le dis et je le redis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Dubaï, c'est vraiment pour les gens qui cherchent à networker, des gens qui. Si tu viens juste à Dubaï pour travailler, pour avoir ton espèce d'écosystème, c'est pas trop adapté. Il faut vraiment te mixer dans la communauté. C'est une ville très cosmopolite. On a plus de 200 nationalités ici. Au niveau du marché, c'est vrai que c'est pas à son plus haut. Ça va commencer, je pense, à repartir bien comme il faut du courant janvier, février. Au niveau des salaires, ça a pas mal baissé ces derniers temps. Mais c'est vrai que c'est plus l'Eldorado que c'était il y a 10 ans, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, où tu voyais des gens venir avec des super, super bons packages à 100 000 dirhams, 200 000 dirhams, 40 000 dirhams par mois, 50 000 dirhams par mois. Là, on commence à avoir des demandes. On a des expats, par exemple, des clients ou candidats, des expats qui sont passés d'un salaire de 80 000 dirhams par mois à 30 000. Ils étaient prêts à accepter 30 000. Donc, on a vraiment vu des chutes considérables. Mais encore une fois, quand tu restes fidèle à une entreprise, surtout en ces temps de crise, c'est à toi qu'on pensera quand la situation se stabilisera. Tu vois? Donc, il faut toujours rester positif. Il faut vraiment rester positif. Après, bon, les gens qui perdent leur boulot, des fois, c'est inévitable et on en comprend. Mais il faut toujours garder espoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut toujours garder espoir. Il faut éviter un maximum les pensées négatives, les commentaires négatifs. Dubaï, c'est la crise. Il faut partir, il faut quitter son pays. Chacun a ses raisons de rester ou de partir et on respecte les raisons de chacun. Moi, si tu me demandes à moi, la raison pour laquelle je reste à Dubaï, c'est parce que j'aime beaucoup la région, C'est vrai que quand tu es de confession musulmane, ça aide beaucoup parce qu'il y a des mosquées partout. Tu vois, tu réfléchis pas deux fois avant de manger quelque chose. Tu retournes pas ton article pour voir s'il y a la graisse animale ou la graisse porcine ou whatever. On voit que tout est halal, donc tu manges sans hésitation. Même des fois, c'est vrai que c'est assez vicieux parce que les gens prennent du poids très facilement. Surtout quand tu... Voilà. C'est vrai que... Mais bon, c'est très agréable. Tu sors de chez toi, tu es en vacances. C'est un peu... Le lifestyle est très intéressant. C'est...
D'accord.
Voilà.
T'as cité l'importance du networking quand on vient à Dubaï. Et justement, c'était ma dernière grosse question que j'allais te poser. Toi qui es un expert du networking, pour toi, quelle est l'importance du networking? Je sais ce que tu vas me répondre. On connaît un peu la réponse, mais la deuxième chose, c'est comment faire pour bien networker?
Ah, tu sais, on entend beaucoup l'expression Your network is your net worth. Et j'y crois à 100%, c'est vrai.
Notre traduction, c'est ton
Alors,
network. Ton réseau.
ton réseau est ta fortune nette. Je ne sais pas comment on dit net
Ouais.
worth. Voilà. Mais en
C'est
anglais,
passé en anglais.
ça passe. Les choses se passent tellement mieux en anglais. Donc, alors, networking, c'est vrai, c'est pas fait pour tout le monde, Abdelrahman. Networking, encore, j'ai vu beaucoup de gens à des événements de networking ne pas être à l'aise. Ils étaient là parce que leur boss leur a demandé d'être là-bas parce qu'il y avait du business ou parce qu'il y avait des gens potentiels qu'ils devaient rencontrer. Ça se travaille. C'est comme de la vente, ça se travaille. Après, il y a deux parties. Il y a networking, donc juste assister à des événements pour rencontrer des gens, et il y a vendre, donc rencontrer des gens pour convertir un contrat, pour chercher un partenariat, un mentorship. Il y a une idée derrière, il y a un agenda, j'allais dire derrière. Voilà. Et si networking, si c'est juste pour socialiser ou pour se faire des amis, ça marche. Après, j'allais dire la vente ou vraiment chercher un boulot ou chercher un contrat, tu peux arriver à le faire, mais généralement c'est le résultat d'un bon networking, d'un networking de qualité. Les gens, il y a une manière de les approcher. Moi, j'ai vu des gens, c'est vraiment, c'est vrai que c'est assez, comment dirais-je, pas alarmant, mais ça m'a choqué. C'est les gens viennent et te tendent une business card avant même de te parler ou de se présenter. Tu vois, ça c'est du tapage commercial, c'est de la prospection. Agressif, j'allais dire, le mot est un peu fort, mais il y a une manière d'approcher les gens. Donc déjà, on cherche à savoir qui ils sont, on se présente, on établit, on essaie de voir, de trouver des choses qu'on a en commun, ce qu'on appelle en anglais des bias. Donc, je ne sais pas comment ça se traduit en anglais, en français, je suis désolé. Bias, c'est des choses qu'on a en commun. Par exemple, je ne sais pas, t'aimes le Real Madrid, moi aussi je supporte le Real de Madrid. Voilà, on a quelque chose en commun. Alors, on va discuter du dernier match, du dernier derby, voilà, d'où tu viens. Par exemple, tu es d'origine, je ne sais pas, moi, marocaine. Ah, il se trouve que je suis aussi d'origine marocaine. Ah, ben, c'est cool. De quelle région? Il y a vraiment
Ah,
le
t'es algérien,
networking.
non? Ah, merde. Ça marche pas.
Whatever. Non, 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 ça, bien sûr que ça marche. On a une communauté. Et Gilles qui cartonne. Et je peux te dire
Je suis
que.
d'origine algérienne, by the way. Hein.
C'est très bien, c'est très
Avec les
bien.
Algériens.
Très bien, on est frères. Et c'est justement la beauté de Dubaï, c'est que les gens s'aident, pas forcément parce qu'ils sont de la même communauté, du même pays, c'est parce qu'il y a des gens, ils ont beaucoup de choses en commun. Après, effectivement, quand tu as plusieurs facteurs qui sont réunis, ça aide encore plus, tu vois. Sinon, tu vas laisser une impression qui est de, ah, il veut quelque chose, tu vois.
Ouais,
Ou sinon, c'est de
de
l'entraide mutuelle. Il faut que ça soit vraiment une win-win relationship. Ok, tu me donnes un contact, je t'échange un contact, je veux t'aider. Qu'est-ce que tu cherches sur Dubaï? Je cherche, je sais pas moi, un designer intérieur. Ok, ben tiens, je te donne la business card, tu lui dis que tu viens de ma part. Viens, on prend un café la semaine prochaine, on s'assoit. Moi, les contrats que j'ai signés durant mon expérience à Dubaï, c'est vrai que ça venait principalement soit du networking, soit du referrals, une référence. Donc quelqu'un qui m'envoie ou qui m'envoie un contact, il me dit tu m'appelles, tu dis que tu viens de ma part. C'est vrai que ça aussi, ça aide
Ouais.
énormément, parce que les gens font confiance quand ils connaissent quelqu'un que tu connais, qu'ils aiment bien. Donc en fait, le networking, il y a trois aspects. Il y a trois aspects qui vraiment lead to success, qui mènent au succès. C'est aimer la personne, lui faire confiance et la connaître. Et tu peux établir ces trois facteurs très très rapidement, surtout ici dans la région. Les choses se passent très très vite. Donc si je vois que je t'aime bien, je vois que je peux te faire confiance et j'ai appris à te connaître, je vais forcément te donner le business ou je vais te donner une référence. Je vais te dire, tu l'appelles, je viens de ma part, ou on va s'asseoir et je vais étudier ta proposition si tu as quelque chose à vendre par la suite. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, bien
Mais
sûr, oui.
ce n'est pas immédiat. C'est vraiment une relation que tu établis.
Et puis c'est pas forcément quand tu fais ça, t'as pas forcément quelque chose à vendre sur le coup, quoi que ce soit. C'est
Non.
vraiment parce que tu sais pas quand est-ce que toi tu auras l'opportunité. Peut-être ce sera dans un prochain job, peut-être ce sera dans autre chose.
Exactement.
En fait, c'est pour le futur. Peut-être ce sera dans 10 ans, dans 15 ans. Tu sais pas quand est-ce que ça va
Le monde
revenir
est
à toi.
petit. Le monde est petit. Le monde est petit. Donc oui, voilà, si j'ai un exemple. Après, si la personne n'est pas confortable avec le networking, il y a beaucoup de gens qui disent, ne faites pas du networking. J'ai envie de te dire non, parce que des fois, tu n'as pas le choix. Tu vois, des fois, tu n'as pas le choix, mais il faut aller ou traîner ou demander des conseils aux gens qui sont à l'aise avec le networking.
Oui. Parfois, c'est le type d'événement aussi. Il y a peut-être plusieurs types d'événements pour networker, où les gens sont plus ou moins à l'aise.
Voilà. Et c'est pour ça quand je te disais quand j'étais en Angleterre que j'avais fait des événements de speed halal, speed dating, j'ai beaucoup aimé le format. Pourquoi? Parce qu'il facilite les gens, il facilite. Ils ont la première session quand tu viens et quand tu as des frères qui rencontrent des sœurs, c'est pas évident. Les deux sont timides. Et il y a une session qui s'appelle icebreaking, donc briser cette glace. Tu vois, ça passe obligatoirement par une introduction individuelle de 1 minute. Par un tour de table où chacun doit se présenter. Et ça, c'est vraiment et c'est aussi l'exercice qu'on fait avec la communauté EGIR. Quand on s'assoit que ce soit dans un restaurant, dans un café, ça commence toujours par une introduction, un tour de table pour justement
La
libérer,
communauté EGIR, je crois
détendre
que
l'atmosphère.
la communauté EGIR, ça, donc c'est un groupe au Moyen-Orient pour les expatriés francs,
C'est
du
un
moins.
groupe au Moyen-Orient pour les franco-maghrébins, la communauté franco-maghrébine. Ça représente aujourd'hui, je pense, un peu plus de 5 000 membres, que ce soit des frères et des sœurs. C'est ça.
Ok, je suis dans le groupe sur LinkedIn, je mettrai le lien, Inch'Allah, pour ceux que ça intéresse.
Ouais, bien
Écoute,
sûr.
Mounir, c'était super intéressant, je te remercie. Est-ce que tu aurais un contenu que tu conseilles? Ça peut être un podcast, un livre, une vidéo à nos auditeurs, un truc du moment que tu as vu récemment, ou un produit, ou une application, je ne sais pas, que tu souhaiterais recommander.
Déjà, sur le site web Signature Network, il y a une rubrique qui s'appelle Podcast. J'ai fait pas mal de podcasts avec plusieurs intervenants où je donne des conseils pour motiver à trouver du travail, à retrouver la motivation, des investissements. Je pense que tu peux aller voir les gens pourraient aller voir dans le site web www.signature-network.com. Il y a une rubrique podcast et aussi les événements d'investissement qu'on a fait dans le passé sont disponibles sur le site web. En fait, c'est un lien YouTube, mon ami. Les vidéos sont déjà disponibles s'ils veulent voir vraiment les événements qu'on a fait dans le passé. Ensuite, là, comme ça, en tête, j'allais dire, j'ai pas d'autres choses qui me viennent, mais si j'ai d'autres choses qui me viennent, je te le dirai. Mais si vraiment les gens, il y a des gens qui veulent faire du networking, qui cherchent du travail, ou qui veulent se faire des amis, ou qui veulent se créer un cercle. Ici, dans la communauté, je parle de la communauté, faut surtout pas hésiter à assister au brunch Asia. C'est vraiment très, très, très productif. Il y a une très bonne ambiance.
Ok. Écoute, je te remercie, Mounir. Si on souhaite te suivre ou te contacter, comment on fait? Si quelqu'un a une question ou veut faire du business ou je sais pas.
moi, je suis énormément sur LinkedIn. Facebook, j'y suis plus depuis des années, même si mon compte est toujours ouvert. Instagram, c'est pas vraiment j'allais dire mon cheval de bataille. Moi, je suis principalement LinkedIn. Donc, si les gens tapent Mounir Bermani sur LinkedIn, ils peuvent m'ajouter, ils peuvent me poser des questions. Il n'y a aucun souci.
Ok, super.
Voilà.
Écoute, Mounir, voilà pour Rafik. Je
Ok,
te souhaite tout le succès dans tes événements.
merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès dans
Inch'Allah.
tes podcasts. Tu nous appelles de Singapour, c'est ça?
Merci. Ouais, de Singapour, c'est ça.
D'accord. Merci beaucoup pour Abdelhamed,
Ouais.
pour ton temps et pour le podcast.
Merci beaucoup. Allez,
Barak
salam
Allahu
alaikum.
fik.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.